dollars américains sur le marché d'échange. Attention à la résilience de l'inflation américaine. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver au lendemain de la mise à jour de l'inflation CPI aux États-Unis. Vous le savez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, il y avait un stress sur les chiffres du mois de janvier pour l'inflation US qui réaccélérait en rythme mensuel. Mardi, hier, ce CPI a été mis à jour. Alors, mauvaise nouvelle, d'un point de vue du rythme mensuel, toujours 0,4. C'est un peu chaud, ça, pour permettre un pivot de la réserve fédérale des États-Unis. Par contre, overall, l'inflation américaine, selon le CPI, encore une fois, qui, je vous le rappelle, n'est pas l'indice favori d'inflation de la Fed, eh bien, overall, l'inflation sous-jacente, et même le super sous-jacent, le core-core CPI, continue de ralentir en rythme annuel. Mais, voilà, le taux mensuel réaccélère, that's not good, but en rythme annuel, ça décélère encore en sous-jacent, mais voilà, n'est pas encore suffisant probablement pour donner confiance à la Fed quant à une certitude du timing de son pivot. D'ailleurs, la Réserve fédérale dévoile une nouvelle décision de politique monétaire la semaine prochaine, mercredi 20 mars. Et ce qui sera très important à suivre, le mercredi 20 mars, c'est la mise à jour de ses projections macroéconomiques et en particulier ce qu'elle va nous dire sur son propre cycle des taux d'intérêt. Sachant que le marché actuellement fait toujours le pari d'un pivot en juin, c'est ça qui, récemment, avait remis la pression baissière sur le dollar américain, qui reste quand même l'objet de cette vidéo, le dollar US. Bon, donc ça s'est traduit par un rebond de l'euro-dollar, un rebond du GBP-USD, un rejet du taux USD-Yen sous la résistance des 150-152 yens. Bon, ça c'était mon scénario. Maintenant, attention, les chiffres de l'inflation hier ont eu tendance à re-soutenir le dollar US, qui est toujours à la croisée des chemins techniques. Et je vous propose donc de parler de tout ça. Première partie, je vous fais un topo sur cette inflation US en détail. N'oublions pas aussi que la tendance du dollar américain sur le marché d'échange est motivée par les statistiques du marché du travail aux États-Unis. Et le taux de chômage US est au plus haut de 2 ans, 3,9% de la population active. Voilà. Et, bon, et puis, je vous fais un gros point technique. Sur le dollar américain, c'est parti les amis, vidéo courte. Vidéo courte pour changer. Voilà. Alors, je déclare ouverte la session. Que le rideau s'ouvre un peu plus vite, s'il vous plaît. Et donc, que démarre cette nouvelle vidéo avec un plan court qui est sous vos yeux, ici. Un plan court, simple. Un point sur l'inflation US. Un point sur le chômage US. Les taux d'intérêt du marché. C'est ça la clé. Vous savez, si vous avez un scénario baissier sur le dollar, c'est-à-dire haussier sur l'euro-dollar, par exemple, ou haussier sur le GBP-USD, et donc baissier sur l'USD-Yen, imaginons que vous ayez ce scénario. Vous avez besoin de faire l'analyse des taux d'intérêt US et des spreads de taux vis-à-vis des autres zones. US versus l'Occident, l'Europe, le Japon. Techniquement parlant, il n'y a pas encore les signaux de cassure de support sur les taux US qui autoriseraient davantage de baisse du dollar. Ce scénario aura lieu, je pense, cette année, mais reporté plus tard au printemps-été. Je pense que ça, c'est sur cette période-là, je pense qu'on aura les vrais signes et que la Fed aura cette fameuse confiance quant à une inflation qui tendrait avec certitude à 2%. Ok. Alors, c'est parti. Le taux de chômage américain est au plus haut de 2 ans, alors que la désinflation se poursuit. Effectivement, le taux de chômage américain est au plus haut de 2 ans, alors que la désinflation se poursuit. Alors, le taux de chômage aux États-Unis, je vous rappelle, hein, ça fait marché du travail et inflation. Ce sont les deux vecteurs, les deux baromètres qui orientent la tendance du dollar US sur le marché des choses. Alors, le taux de chômage aux États-Unis a atteint 3,9% de la population active, ici, selon le dernier rapport NFP. Ce fameux pivot de la Fed dont on parle, remettons les choses en perspective. Je vous ai mis en bas à droite, ici, un graphique qui vous rappelle le cycle des taux d'intérêt de la Fed depuis 40 ans. Ce qui vous permet de voir quand même que cette hausse verticale, ici, de 0 à 5,5 Et désormais, donc, le taux de la Fed est flat, 5,5. Qu'est-ce que c'est que ce fameux pivot qui permettrait, qui déclencherait une tendance baissière du dollar US face aux autres marchés? Eh bien, c'est ça. C'est lorsque la Banque centrale engage ses premières baisses de taux que derrière suivent plusieurs baisses de taux. Ici, vous aviez le pivot et là, la chute à zéro liée à l'époque à la crise sanitaire. Alors, c'est la perspective du pivot de la Fed qui conduit la tendance de fond du dollar américain sur le marché d'échange. Et les perspectives de politique monétaire de la Fed sont guidées par les données du marché du travail et l'allure générale de l'inflation sous-jacente domestique aux États-Unis. C'est la semaine passée que les statistiques sur le marché du travail US ont été mises à jour, en particulier le rapport NFP. Selon ce dernier, le taux de chômage aux États-Unis a atteint un plus haut de 2 années. Avec un taux de chômage à 3,9% de la population active, soit on approche du seuil d'alerte de la Fed. Car, ayez conscience d'une chose, qu'est-ce qui pourrait permettre à la Banque centrale américaine de commencer à baisser ses taux, ce qui aurait un impact baissier sur le dollar américain, surtout si c'est elle qui agit en premier, et en particulier avant la Banque centrale européenne, c'est une dégradation du marché du travail. Me direz-vous, comment savoir à partir de quel seuil c'est un stress ? C'est très simple, la Réserve fédérale, une décision de politique monétaire sur deux, elle communique ses objectifs. Et ce qu'elle nous a dit, alors ce sera mis à jour la semaine prochaine, mais ce qu'elle nous a dit en décembre, c'est que le seuil des 4,1% est son seuil d'alerte. Le seuil des 4,1% est son seuil d'alerte. Donc je vous avais ici, c'était le tableau des objectifs macroéconomiques de la Fed qui avait été publié en décembre. Donc encore une fois, il va être mis à jour lors de la décision de politique monétaire du mercredi 20 mars, eh bien, sur le long terme, la Fed n'envisage pas, en tout cas ne tolérera pas, un taux de chômage qui dépasserait 4,1% de la population active. C'est donc pour cette raison que lorsque vous observez une tendance à la hausse et le rapport NFP la semaine dernière, là je vous montre le taux de chômage U3, le classique, et vous pouvez aussi regarder le taux de chômage U6, qui cette fois-ci, en fait, qui est intéressant parce que c'est le vrai chômage, c'est-à-dire les personnes mal employées, marginalement employées, ou encore celles qui ne cherchent plus de travail, car découragées, vous avez quand même un taux de chômage qui est déjà à 7,3%. Mais la Fed, elle, regarde le taux de chômage classique. Tout ça pour dire que, en fait, ce que vous avez eu ici, je vais reprendre quand même le dollar US, c'est quand même le sujet de cette vidéo. Le dollar américain, c'est la seconde partie, je reprends tout l'aspect technique. Le dollar ici avait donc rejeté sous la résistance des 105 points et avait repris sa phase de baisse. Et là, vous avez donc l'impact légèrement haussier, mardi, de l'inflation CPI. Mais toute cette baisse ici a été liée à ces statistiques du marché du travail. Et plus que jamais, le dollar US est à la croisée des chemins techniques. Prenez par exemple les enseignements du système Ishimoku en année hebdomadaire, regardez ça. C'est ressortir par le bas là du nuage, c'est vraiment redécrocher. Donc c'est au bord du gouffre. L'inflation a permis de tenir, mais voilà, combien de temps? Bon, et ça c'est bien sûr inversement corrélé au cours de l'euro-dollar. Et en fait, nous sommes toujours dans cet intervalle technique tant qu'on y est, en fait, il est difficile de trancher entre, rappelez-vous, l'aspect fractal, une vague B qui serait terminée ici, ou toujours en construction, c'est-à-dire que si elle est toujours en construction, on peut aller chercher la construire, et ensuite, bon, ça je vais réactualiser tout ça, mais voilà, donc nous sommes toujours, plus que jamais ici, à la croisée des chemins techniques, dans l'immédiat, sous la moyenne mobile à 200 jours, il y a quand même plutôt un biais correctif. Bon, revenons à nos moutons, là je m'égare. Le nombre de chômeurs, voilà, très bien. Donc alors, je vous rappelle que ces statistiques du marché du travail sont le seul agrégat qui serait en mesure de déclencher, de précipiter le pivot de la Fed, qui n'est pas attendu avant juin minimum, et ça peut avoir le dessus sur l'inflation. Maintenant, l'inflation, ça reste cheap. C'est ça aussi qui freine le scénario baissier du dollar américain. L'inflation, ça reste touchy. Alors déjà, le mois précédent, les chiffres de l'inflation mensuelle de janvier, rappelez-vous, avaient vu un taux mensuel en accélération à 0,40. Et le marché attendait les chiffres de février et l'idée, c'était, le consensus, c'était que ça retombe à 0,30. Alors, mauvaise nouvelle, dans les chiffres qui ont été mis à jour hier, mauvaise nouvelle, c'est aussi 0,40, deux fois d'affilée. Attends, il faut aller voir ensuite dans les composantes. Alors, c'est deux fois le même 0,40, essentiellement à cause toujours de l'inflation immobilière et des services. Par contre, overall, l'inflation sous-jacente en rythme annuel, elle, baisse à 3,8. Mais 3,8, voilà, c'est encore loin de l'objectif des deux. Même si, nous le savons, la Fed, là je vous ai montré le CPI, mais la Fed regarde surtout le PCE, qui lui, en version sous-jacente, est à 2,8. Et lorsque vous regardez le core-core CPI, c'est-à-dire le super-core CPI, donc vraiment qui exclut tous les éléments les plus volatiles, et dont la partie aussi immobilière, dont la partie immobilière qui est volatile, eh bien, vous allez voir que nous sommes en fait déjà bas, nous sommes déjà à 2,50. Donc, c'est assez difficile à interpréter les chiffres d'hier. Il y a à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que l'inflation nominale ne baisse plus, elle reste à 3,1. Bon, l'inflation sous-jacente est toujours en baisse, mais 3,8 c'est haut. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. En rythme annuel, l'inflation immobilière, qui est certes encore très haute, passe de 6 à 5,7. L'inflation des services, elle aussi, continue de baisser. Les trajectoires sont bonnes. Oui, les trajectoires sont bonnes. La trajectoire en rythme annuel de l'inflation reste bonne, c'est-à-dire qu'elle tend vers 2%. Mais elle est suffisamment éloignée par le haut, et ce petit rebond du rythme mensuel, qui pour certains est passager, mais c'est l'incertitude du moment, crée un doute. Et donc maintenant, quel impact cela va avoir sur le dollar américain? L'impact sera l'interprétation que la Réserve fédérale en aura mercredi prochain, le 20 mars. Et nous allons le savoir, car elle va mettre à jour ses projections en matière de taux. Et comme elle nous indiquait en décembre qu'elle baisserait ses taux 4 fois, on va voir maintenant ce qu'elle nous dit. Et forcément, si... il y a aussi le chômage. Si les anticipations devaient se déplacer dans le temps, et passer par exemple d'une anticipation d'un pivot de la Fed de juin à septembre, ça, ce serait un facteur de rebond du dollar américain. Et donc de baisse de l'euro-dollar. Donc, c'est vraiment ça qui va compter lors des prochaines semaines. Mais voilà, overall, nous avons quand même une inflation sous-jacente qui continue de reculer. Mais voilà, avant la crise sanitaire, la vague d'inflation, dans le monde d'avant, vous voyez que bon, bah voilà, c'est ça que la Fed veut retrouver. Donc on en est quand même, il y a encore du chemin à parcourir. Même s'il y a un problème, c'est que dans le CPI, en fait, c'est la surreprésentation de l'immobilier. Et les indicateurs avancés de l'immobilier nous montrent que cette inflation immobilière, elle est déjà à ce niveau-là, mais comme il y a un retard dans la façon dont les datas sont intégrées, voilà, etc., etc. Donc, bon. Alors, maintenant, l'impact sur le dollar américain. Il s'agit avant tout de regarder comment se comportent les taux d'intérêt du marché. Vous savez, ça je l'ai répété plusieurs fois, le scénario baissier du dollar américain est conditionné par des cassures techniques baissières sur les taux d'intérêt du marché US et sur les spreads de taux. Oui, les taux d'intérêt du marché US baissent depuis 6 mois. Ça a été aussi le rebond du prix des obligations du fait de la corrélation inversée. Prix, taux d'intérêt. Par contre, ils n'ont toujours pas cassé de gros support. Je vais vous montrer, c'est très intéressant. Vous allez voir. Où est-ce que nous en sommes, d'ailleurs, sur le plan technique, que vous preniez, par exemple, le rendement obligataire à 2 ans, et on y applique, par exemple, les enseignements du système Ishimoku, voilà, le marché rejette depuis le même niveau que le double top ici de 2006-2007, mais regardez, comme c'est passionnant, les bougies japonaises de ce taux obligataire à 2 ans sont dans le nuage en hebdo. Ce qu'il manque, et j'arrête pas de le dire, c'est qu'il faut s'en sortir par le bas. Et ça viendra soit vraiment d'une désinflation qui accélère, ou soit d'une dégradation brutale du marché du travail américain. Et donc voilà, après le NFP et après l'inflation, eh bien ça maintient le taux à l'intérieur. Et donc vous avez ici deux super bornes. Vous avez 4,70% et vous avez 4,40. Il faut que le jour où le taux US à 2 ans, s'il sort par le bas, là, l'impact sera hyper baissier sur le dollar américain face à un panier de devises. Et dans ce cas-là, ça veut dire que nous aurions déjà engagé la vaccée. Mais voilà, pour le moment, ni le rapport NFP, ni le CPI n'ont permis de quitter cette borne. La Fed a besoin de confiance et le marché aussi a besoin de savoir exactement ce qui se passe. Mais il y a quand même un doute qui est revenu quant à ces chiffres de l'inflation. Le raisonnement est le même sur le 10 ans, américain. Il y a aussi bien sûr les enseignements des spreads de taux. Regardez le spread de taux euro-dollar. Le spread de taux euro-dollar que j'ai représenté ici avec les bougies japonaises et bleues, lui aussi est dans le nuage. Donc, s'il en sort par le bas, ce serait un cas de figure baissier pour le dollar US et inversement. Vous avez aussi tous les spreads face aux autres devises, le spread face au yen, face au franc suisse, face à l'euro, face au dollar australien, face au dollar canadien. Les chiffres de l'inflation CPI mardi ont relancé la hausse de ces spreads. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça, c'est cette résilience du dollar de l'inflation US qui maintient en fait le dollar dans cette espèce de zone d'équilibre dans laquelle il est depuis un certain temps. Et n'arrive pas à faire un choix. Le dollar enfermé entre les 100 points et les 105, 106. Et voilà, tant qu'on ne sait pas, tant qu'il n'y a pas cette conviction de savoir est-ce que la Fed, oui ou non, va pivoter, et elle-même, pour savoir ça, la Fed a besoin d'avoir sa confiance, sa certitude que quoi qu'il arrive, de toute façon, l'inflation vient à 2%, tant qu'il n'y a pas ça. Et là, bon, les chiffres publiés hier mardi n'ont pas permis cette confiance. Mais en même temps, c'était pas attendu. Alors, techniquement parlant, je vous fais la mise à jour parce que c'est le principe de ce Fast and Forex. Et on fait le suivi. Je vous rappelle le débat de fond, le débat sur le dollar américain, la structure de fond. Le marché a terminé un cycle haussier qui était vieux de 15 ans et a engagé depuis, selon moi, une phase corrective. Phase corrective classique. En fractal, voilà, après 5 temps de hausse de long terme, 3 temps. Maintenant, l'idée est de savoir, est-ce que cette vague B est terminée? Moi, j'ai ma conviction qu'on fera une vague C d'ici la fin d'année. Mais je ne sais pas, et toujours pas, si cette vague B est terminée. C'est-à-dire que, je repasse ici en données hebdomadaires, c'est-à-dire que, soit la vague B donc, se construit en 3 temps, soit elle a été terminée ici. Et nous serions déjà dans une vague C. Nous aurions fait, donc ici vous avez à droite le journalier, à gauche l'hebdomadaire, la 1 de la C, la 1 de la C qui est ici, ensuite la 2 de la C qui est ici, et nous serions déjà dans la 3 de la C, mais pour confirmer ça, il faut casser les 101 points. Tant qu'on est dans cet intervalle de neutralité, il est impossible de trancher entre quoi et quoi. Il est impossible de trancher entre ça ou sinon ça. C'est-à-dire une vague B encore en construction, où on aurait fait la A de la B, la B de la B, et nous pourrions encore avoir la C de la B. Mais pour valider ça, il faut dépasser une résistance, il faut sortir de cet intervalle de neutralité. Et ni le NFP, ni l'inflation n'ont permis de le quitter. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il ne se passe plus rien sur le Forex, que l'euro dollar est neutre, que je vais... C'est parce que le dollar US reste enfermé dans ces deux bornes. Les moyennes mobiles se mettent à plat. Il n'y a même plus de biais vis-à-vis d'elle. Dans l'immédiat court terme, pouvons quand même dire que sous la 200 jours, il y a quand même un biais négatif. Par contre, voilà, on voit bien qu'elle a un rôle de pivot. Dès qu'on la redépasse, on va chercher la partie haute. Dès qu'on la repasse en dessous, on va chercher la partie basse. Et on travaille ça. Mais sans un chiffre, sans une statistique, vraiment. Voilà, mais moi, overall, j'ai toujours mon scénario d'ici la fin de l'année de faire une vaccée, d'aller sous les 100 points. Par contre, voilà, je ne peux toujours pas trancher avec moi aussi confiance. Tout le monde cherche la confiance, le marché, la Fed. Je ne peux pas trancher avec confiance quant à savoir si elle est terminée là ou si elle est encore en construction. Et ça, c'est le vrai schmilblick du moment. Chers amis, voilà, écoutez, je voulais vous faire juste un topo rapide comme ça sur les chiffres de l'inflation qui sont tombés hier, l'impact sur le dollar. Voilà, merci à tous de votre fidélité, d'être toujours présent, de mettre des likes ou pas des likes. Allez, merci à tous, et puis on se retrouve très vite sur Swissquote. Salut.